Franchement, comment on va passer le questionnaire. Il est longtemps que vous habitez à Orléans.
Eh bien, ça fait 26 ans. Est-ce que vous, j'y avais été avant?
Ah oui, avant.
Bon, écoutez, si vous voulez, je peux retracer les choses. Je suis donc né à Beaugency, là, avant le Loiret. Et à 11 ans, je suis venu en pension à Orléans. J'ai fait mes études secondaires comme pensionnaire à Orléans. Donc j'ai été là pendant 5 ans, de la 4e à classe terminale.
Classique, et, moderne
J'ai fait philo comme bac. Mmh. Après, je suis reparti à Beaugency, ce qui n'est pas bien loin d'Orléans. Et j'ai passé le concours en 1941 et j'ai été 7 mois à Paris. 1941-42, depuis 1942, donc ça fait bien 26 ans, mmh. Je suis revenu à Orléans. Je suis marié à Orléans en 43, alors vous voyez, ça fait quand même...
Est-ce que vous vous plaisez à Orléans?
Oui. Oui, parce que j'ai beaucoup d'amis. Et puis parce que progressivement j'ai pris de l'intérêt à la vie d'Orléans, parce que je suis donc dans les impôts, mais à l'origine il y avait trois administrations, il y avait l'enregistrement, les contributions directes et les contributions indirectes. Et je suis rentré, moi, à l'origine, uniquement dans l'enregistrement. Mais c'est l'enregistrement et les domaines. C'est-à-dire c'est l'administration qui s'occupe de toutes les questions d'immeubles de l'État. Et alors, pratiquement, j'ai jamais fait de fiscalité. Je me suis toujours occupé de tâches domaniales. Et alors, en particulier, l'administration des domaines est le conseiller non seulement de l'État, mais des collectivités locales, pour toutes leurs opérations immobilières. C'est-à-dire que, par mon travail, j'ai été au courant de tous les problèmes, de tous les projets concernant l'agglomération orléanaise. Comme d'un autre côté, sur le plan syndical, ça m'intéressait également, enfin, ça me concernait également. Si vous voulez, j'ai pris intérêt de plus en plus à la vie, quoi, de cette ville et de l'agglomération. Moi, je suis très partisan de la fusion de toutes les communes qui composent l'agglomération orléanaise. Et c'est pourquoi j'ai 6 enfants et eux-mêmes ont beaucoup d'attaches à Orléans. Enfin, on se plaît. On se plaît à Orléans. Alors, il y a une autre chose, je dois dire, qui me plaît dans le fait d'être à Orléans. C'est la proximité de Paris sans être à Paris. C'est peut-être un élément qui influence ma position de tout à l'heure. On a la possibilité, si on veut, à la rigueur, on peut aller partir en sortant de son travail, passer la soirée à Paris. Je ne l'ai jamais fait, si vous voulez, mais enfin, c'est une possibilité. Et rentrer à 1h du matin, on est là, sans même y aller en voiture, par le train, on peut. Même si aller dîner chez des amis à Paris et rentrer dans la nuit, et le lendemain matin, prendre son travail. Ça, pour moi, d'un autre côté, la région me plaît. Le Val de Loire me plaît. J'aime beaucoup les sites du Val de Loire. Et je sais pas, ça tient peut-être à des choses dont on a conscience et des choses dont on n'a pas conscience. Je vais faire part d'une réflexion toute récente. J'ai donc passé mes vacances en Espagne et je suis revenu en voiture. Et je suis remonté, vous voyez, par Bordeaux, Poitiers. Et puis à Poitiers, un peu au-dessus de Poitiers, au lieu de continuer vers Tours, on a bifurqué vers Loches. Alors tout d'un coup, on a été frappé de voir le paysage aussi net, de voir le paysage aussi pur, quoi. Enfin, on était dans un Santander en Espagne, c'est-à-dire que c'est une région très brumeuse, même quand il fait beau temps, c'est très brumeux. À proximité de la mer et de la montagne, un pays assez chaud, fait que c'est toujours... Alors que là, il y a une... enfin, une visibilité, c'est pas toujours, hein, mais fréquemment, une pureté de l'air qui, enfin, je sais pas, ça. Il y a un certain nombre de choses. Le site me plaît, puis j'aime bien énormément. Je dois dire que, si vous voulez, tout ça des à côté, mais enfin, j'aime beaucoup, vous voyez, l'art roman. Hein, il y a dans la région un certain nombre, en particulier dans la vallée du Loir, un certain nombre de très belles églises romanes, enfin, de toutes sortes de choses qui font que, je sais pas, plaît dans cette région.
Et est-ce qu'il y a des choses qui vous déplaisent? Je vous ai coupé là, qu'est-ce que vous alliez dire?
C'est à taille humaine, hein, j'allais dire, si vous voulez, c'est pas trop petit, c'est pas trop grand, hein. Si vous voulez, on connaît pas tout le monde, mais enfin, on peut connaître beaucoup de monde, c'est un aspect aussi. Hein, qui... Alors, chose qui me déplaise, bon, vous savez, je crois que c'est pas spécial, alors, hein, il y a, on le disait, alors, quand vous partiez l'autre jour, hein, on dit que les Orléanais sont froids, c'est vrai, hein, il y a certainement... Est-ce que c'est spécial à Orléans? J'en doute de plus en plus. Hein, j'en doute de plus en plus. Ma fille qui fait une licence d'espagnol s'est inscrite à Poitiers parce qu'on ne faisait pas de licence d'espagnol ni à Tours ni à Orléans. Elle s'est inscrite à Poitiers. Elle y a passé une année sans pouvoir s'y habituer. Hein, et parce que le milieu était très fermé et effectivement, j'ai des collègues qui se sont trouvés dans la même situation et qui ont eu la même réflexion. J'ai entendu les mêmes réflexions de gens qui étaient à Angers ou de gens qui étaient... Je crois qu'on en est tous là. Il me semble. Hein? Alors, il est bien certain que il y a la mentalité d'une partie de la population orléanaise qui ne m'enthousiasme pas, mais je crois que c'est pas spécial à Orléans.
Une partie de la population, en fait.
Oui. Oui. Bah, je crois que effectivement, il y a une population, disons, bourgeoise et assez fermée. Hein, assez fermée. Hein, et aussi, j'allais dire aristocratique, tout au moins d'ancienne noblesse, si vous voulez. Enfin, quand j'ai fait mes études, j'étais pensionnaire dans un établissement catholique ici, hein, Sainte-Croix. J'étais pensionnaire pendant 5 ans. Il y avait 20% des élèves de la classe qui portaient des noms à particules, quoi, hein, et qui formaient une caste. Ah oui! Et qui formaient une caste. Vraiment, ils étaient très, très, très liés entre eux. C'est une des villes où on retrouverait le plus de gens qui sont favorables à régime royaliste.
Hein. Il y aurait des organisations.
Ah oui, il existe des organisations. Ah oui. Ça s'est senti au mois de mai et juin chez les étudiants. Hein. Ah oui. Ça, incontestablement. Hein, incontestablement. Alors, mais enfin, vous savez, on n'est quand même pas obligé d'être bien avec tout le monde. Hein. Enfin, je trouve qu'il y a tellement de gens avec qui on peut très facilement vivre et entretenir de bonnes relations. Et même avec des gens qui sont purement orléanais. Parce que si vous voulez, moi, mon père était de la Sarthe et ma mère du Berry. Hein, donc, je suis né dans le Val-de-Loire, mais enfin, sans être... d'origine de la région, quoi, mais j'ai de très bons amis, j'avais un très bon camarade là, qui est mort l'année dernière, qui était vraiment orléanais depuis toujours, et avec qui vraiment on s'entendait très bien. Et, hein. Ah oui, certain qu'il y a, mais je sais pas si, enfin j'ai jamais fait l'expérience, mais il est certain qu'il y a des cloisons un peu entre les classes sociales, hein. Non pas qu'elle soit, si vous voulez, imposée, quoi, que les gens refusent tout contact, mais enfin, on se sent plus ou moins à l'aise, et puis, c'est tout.
Ouais. Est-ce que vous pourriez me dire, à votre avis, quelles sont les principales qualités des Orléanais?
Bah, C'est-à-dire ça dépend si on considère des choses comme des qualités ou comme des défauts. Hein? Il est certain, enfin je crois que les gens sont très travailleurs. Hein? Je crois que les gens sont très travailleurs. Alors, c'est une qualité jusqu'à un certain point. À partir du moment où on est esclave de son travail, à mon avis, c'est un défaut. Hein? Surtout si c'est un travail que l'on fait uniquement parce qu'on a besoin de le faire pour gagner sa vie. Or ça, je crois que ça existe beaucoup. Hein? Y a peu de gens qui réalisent vraiment une vocation, quoi, et qui s'épanouissent dans leur travail. Et alors, par contre, je crois que les gens travaillent avec acharnement, hein, c'est donc une qualité, mais je pense que beaucoup sont un peu esclaves de leur travail. Hein. Je sais bien qu'il y a des tempéraments extrêmes dans un autre sens, hein, et que... Enfin, j'évoque beaucoup mes dernières vacances parce qu'il y a eu quelques contrastes. En Espagne, il faut bien dire qu'on a eu le sentiment quand même d'une vie décontractée par rapport au travail, hein, et puis d'un style de vie qui nous plaisait d'ailleurs, incontestablement. Et alors quand on a eu passé la frontière, mais alors là on n'était pas encore à Orléans, hein, on a déjeuné à Saint-Jean-de-Luz. Hein. Alors là, au restaurant, c'était calme, on n'entendait rien du tout, n'est-ce pas? Et alors, ma fille qui était avec moi a repris une expression que connaissait Fernand Reynaud, là, qui raconte des histoires. Elle dit, voilà, on n'est plus là pour rigoler. mais c'est vrai, hein, on a le sentiment, hein, d'un changement de... Hein, de climat, quoi. Enfin, ici, vraiment, je crois qu'une des qualités des gens, c'est d'être travailleur. Mais alors, quand ça atteint un certain degré, à mon avis, c'est un défaut, et alors, dû à une certaine âpreté au gain, hein, je crois qu'effectivement, alors là, c'est plus une qualité, à mon avis, c'est un défaut, une certaine âpreté au gain. Ça me paraît, et même chez, alors là, quelle que soit la classe sociale, quelle que soit la classe sociale. Ah oui, on le retrouve. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, hein, mais on le retrouve très fréquemment et dans toutes les catégories sociales. Il est certain que les gens sont très près de leurs intérêts. Hein, sont très près de leurs intérêts. Ça, c'est certain.
Est-ce que vous voyez d'autres qualités, mis à part l'acharnement au travail?
Bah, qu'il soit général, je crois pas, on retrouve, enfin voyez-vous, moi, il me semble que c'est une espèce de situation moyenne un peu, hein, cette région, hein, qu'on retrouve, enfin il n'y a pas une uniformité si vous voulez, hein. Les gens d'Orléans ne sont pas réputés pour être particulièrement aimables par exemple, enfin on trouve quand même des gens aimables. Hein, à Orléans, en fait, je crois pas qu'il y ait ni en qualité ni en défaut beaucoup de traits qui soient vraiment dominants, enfin qui soient communs à tout le monde. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même un certain brassage de population qui fait que on trouve quelque chose de très mélangé. Hein.
Et comme défaut non plus, enfin, vous ne voyez pas de
à part cette apporté au gain, oui. Moi ça me... Enfin, je sais pas si c'est parce que, par tempérament, ça me paraît quelque chose, enfin, qui me plaît pas beaucoup, mais ça, enfin, je crois, et je vous dis, on le retrouve chez beaucoup de gens, quoi, et dans toutes les catégories sociales. Oui. Hein.
Et cela expliquerait peut-être un peu ce qu'on dit sur les Orléanais, ils ne savent pas s'amuser.
C'est vrai, hein? Oui. c'est vrai. Enfin, ça tient peut-être un petit peu au climat, mais enfin quand même le soir, même en été, on ne voit pas beaucoup de monde dans les rues. Hein? Et aux terrasses de café, à partir de 7h30, c'est à peu près évacué. Hein?
Qu'est-ce qu'ils font alors?
Les gens vivent très repliés sur eux-mêmes. Les gens arrivent très repliés sur eux-mêmes, il y a peu de... le cercle des... Vous voyez, quelque chose qui est très, très cultivé sur le plan orléanais, c'est la famille. Hein? C'est-à-dire que on étend la famille assez loin, si vous voulez, hein? Mais on reste volontiers dans ce cercle, hein, de la famille. Et on est... Enfin, beaucoup de gens ici estiment que avoir une nombreuse parenté, proche ou lointaine, c'est, ça les pose un petit peu, hein, si vous voulez. Hein. Mon cousin ceci, mon cousin cela. Hein, ça, c'est une réflexion qu'on entend très fréquemment. Hein.
D'où oui, la difficulté des étrangers, enfin récents, pour pénétrer, parce qu'il n'y a pas de famille.
Certainement, mais oui, certainement. Hein. Certainement. Mm-hmm. Hein. Ah oui. Alors évidemment, s'ils arrivent à s'insérer dans un groupe, quoi, dans un groupement, alors là, ils se font des relations. Je crois qu'effectivement, les amitiés sont solides. Hein, quand l'amitié est sincère, je crois qu'elle est solide. Hein. Les gens ne sont pas se lient pas facilement, mais vraiment quand ils se lient, quand ils s'attachent à quelqu'un, c'est solide à mon avis. Hein. Les gens sont méfiants. Hein. Ça tient peut-être à l'origine paysanne assez récente, quoi, qu'on évoquait autrefois. Hein. Je crois que là, effectivement, comme la protéoga, enfin, l'influence de la Beauce, quoi, à mon avis, a joué. Voyez-vous, les gens du Val de Loire, les vignerons seraient plus liants, seraient plus.
Si vous aviez le choix vous-même, est-ce que vous aimeriez habiter ailleurs?
Non. Enfin, je ne souhaite pas quitter Orléans. Hein? Je ne souhaite pas quitter Orléans. Si, pour une raison professionnelle, je devais quitter Orléans, je quitterais Orléans. Mais voyez-vous, c'est peut-être parce que on a une certaine difficulté ici à se créer des amitiés. Hein? Que je serais un peu effrayé par la solitude que je craindrais de retrouver ailleurs.
Et vous croyez que c'est spécial à Orléans, ça, c'est
pas... Ah non, j'en sais rien, ça j'en sais rien, je ne sais pas. Hein. Mais voyez-vous, personnellement, je ne souhaite pas du tout quitter Orléans. Hein, d'abord parce que, je vous dis, j'ai toutes ces... Puis alors, la région aussi me plaît, et je ne souhaite pas du tout quitter Orléans.
Si vous croyez, par exemple, pour les questions de famille, est-ce que la famille joue beaucoup dans la recherche du travail, par exemple? Les relations familiales?
Comment ça?
Quelqu'un qui cherche du travail, enfin, est-ce qu'il fait appel à ses relations familiales? Est-ce que ça joue beaucoup? Hein?
Pour l'aider, je sais.
Je sais pas, hein, ça, alors là, j'avoue que je n'ai pas d'idée sur cette question. Hein. Je n'ai pas d'idée sur cette question. Non.
Et si vous compariez, par exemple, la mentalité des Parisiens et la mentalité des Orléanais, est-ce que vous voyez des grosses différences ou...
Ben, je crois quand même que, enfin apparemment, hein, je connais peu les Parisiens, j'ai passé 7 mois à Paris, et c'était l'hiver 41-42. Hein, traversait le boulevard Saint-Michel à n'importe quelle heure de la journée sans regarder s'il venait de voiture. je crois que, enfin, à mon avis, le Parisien, en moyenne, me paraît plus insouciant, et ça ne me déplaît pas d'ailleurs, que l'Orléanais, hein? moins près de ses intérêts. Hein? Vous allez me dire, ça me travaille cette idée, mais vraiment, hein? ça me paraît une différence quand même assez importante. Hein? J'ai des amis qui qui ont longtemps habité la région parisienne et qui sont venus habiter à Orléans. Et quand ils sont arrivés à Orléans, ils ont effectivement trouvé que le fait de quitter Paris d'abord leur coûtait beaucoup. Et puis, ils ont pensé les premiers temps où ils étaient ici qu'ils ne s'habitueraient jamais. Ils disent maintenant qu'ils ne voudraient pas retourner à Paris.
Ah oui.
Et c'est des gens qui étaient vraiment, la femme surtout, vraiment parisiens, quoi, qui n'étaient pas des parisiens d'importation.
Oui. Est-ce que vous pourriez raconter rapidement votre histoire? Disons les moments les plus importants de votre vie pour vous.
À Orléans.
Vous considérez comme les moments les plus importants de votre vie.
Remarquez, il y a des choses sur le plan familial et puis des choses sur le plan professionnel. Hein, et puis sur le plan des groupes, disons, auxquels j'appartiens. Hein. Alors, bien certain que sur le plan familial, il y a la constitution de ma famille, quoi, mariage, les naissances successives des enfants, ça a été chose de très important. Et parmi ces naissances, surtout la naissance du seul garçon qui était dans la famille, tandis qu'il est encore en plus le sixième, c'est-à-dire le dernier. sur le plan, disons, professionnel, sur le plan professionnel, je crois que j'ai toujours été, le travail que j'ai fait m'a toujours beaucoup intéressé, mais il est certain que ce qui m'a paru le plus, plus intéressant, ce que j'ai le plus apprécié, c'est l'évolution qu'il y a eu dans mon travail depuis 4 ou 5 ans, c'est-à-dire où vraiment j'en suis arrivé à faire des tâches qui, alors, m'intéresse particulièrement, peut-être pas l'enseignement si on veut, parce que c'est pas une heure de cours qui est donnée par semaine que je peux appeler de l'enseignement, c'est quand même accessoire, mais enfin quand même ce contact avec les jeunes hein, que j'ai, des garçons, des filles de 18 à 22, 23 ans. Une chose je crois que j'apprécie beaucoup et qui fait que j'ai trouvé un épanouissement, surtout dans ces dernières années, c'est l'harmonie qu'il y a eu entre ma vie familiale, ma vie professionnelle et mon activité sur le plan social. Hein. Mes enfants arrivant à l'âge où ils sont étudiants, où ils entrent dans la vie professionnelle, hein, s'intéressant certains d'ailleurs à des problèmes qui sont les mêmes. J'ai une de mes filles qui travaille à la direction régionale des statistiques. Hein. Le fait qu'ils s'intéressent également à ces problèmes économiques qui m'intéressent beaucoup, problèmes sociaux, qu'il y a entre nous une assez grande convergence de vues. Hein. Je crois qu'il y a eu une harmonie qui s'est faite entre tout ça, hein, et puis entre mon travail et mon activité sur le plan syndical. Hein. Je peux dire qu'il n'y a pas de séparation hein, entre les deux, étant donné que toute cette étude des problèmes économiques que je fais pour mon travail est quelque chose qui m'intéresse également du point de vue de mon activité sociale. Hein, et je vous dis, je crois que c'est ça qui fait que... C'est pas un fait particulier, hein, je crois que c'est la convergence un peu de tout ça. Hein.
Est-ce que vous auriez aimé faire autre chose comme métier?
C'est tellement différent ce que je fais de ce que font la plupart de mes collègues qui sont dans le même dans la même administration que moi. Hein. Alors je crois que je ne me plairais pas dans mon administration si je faisais de la fiscalité. Hein, je crois. Hein. Mais j'ai eu la chance que ma carrière professionnelle à l'intérieur de l'administration s'est orientée vers quelque chose qui effectivement me plaît. Et je crois que maintenant, si vraiment... vous voyez, l'enseignement, par exemple, m'aurait assez tenté. Hein. Il se trouve que maintenant, je ne fais pas de l'enseignement, si vous voulez, mais enfin, j'ai l'occasion quand même de participer à la formation économique de ces jeunes. Là. Hein, je ne sais pas si je vous ai dit que je donne des cours d'économie politique à ces stagiaires là, que nous avons. Et ça, si vous voulez, c'est une des choses qui m'aurait le plus intéressé.
Je pensais que votre expérience, quand même, est absolument cruciale pour votre enseignement.
Ah oui. Ah oui. Ah, vous savez, je crois que... Enfin... Je vais dire ça dans des professeurs. En France, c'est... Je sais pas comment est l'enseignement en Angleterre. Hein, mais j'ai plus appris par le syndicalisme que par l'université. En matière économique, hein. Et au point de vue pédagogique, alors là, il n'y a pas de doute. Il faut dire que en France, la formation pédagogique des professeurs d'université. Alors là, vraiment, j'ai été depuis 1950 surtout, j'ai été amené à faire pas mal d'exposés, de cours, de participer à des discussions, à des débats, dans des sessions de formation syndicale. Et alors parce que je traitais des problèmes que les gens qui étaient là avec moi n'étaient pas habitués, enfin quand on est obligé d'aborder des problèmes économiques, je me souviens, le premier sujet que j'ai eu à traiter, c'est la productivité. Hein, avec des gens qui n'avaient aucune préparation pour recevoir quelque chose là-dessus. Ça nous oblige, enfin, si on ne veut pas simplement faire un exposé puis se dire « ça va bien, c'est fini », eh bien, ça vous oblige à chercher les points d'accrochage. Hein? Et alors, je crois qu'effectivement, le fait d'enseigner à des adultes et de chercher à voir ce qui leur fait difficulté, à discuter, à ne pas se borner à faire un exposé, mais à discuter, hein? Eh bien, à mon avis, c'est très formateur sur le plan pédagogique.
C'est mon expérience.
Je crois, hein, ça. Enfin, c'est ce que j'ai éprouvé.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes venu à exercer ce métier?
Oh, c'est un peu un hasard. À rentrer dans l'administration où je suis rentré, hein, c'est un peu un hasard. Hein. J'habitais Beaugency. Et je vous ai dit que mon père avait une entreprise de couverture, plomberie, chauffage central. Et vraiment, je crois que... D'abord, j'étais pas doué du tout pour les tâches manuelles. Hein, ça, alors, je suis vraiment nul dans ce domaine. Et d'un autre côté, j'ai vu mon père beaucoup peiner. Hein, non seulement, pas sur son plan professionnel, mais pour mener son affaire, beaucoup peiné. Et je crois que, si vous voulez, il y a eu donc là déjà un pôle de répulsion. Non pas que j'admirais pas le travail qu'il faisait, loin de là, hein, mais je veux dire que il m'a semblé que la vie qu'il était obligé de mener, parce que, eh bien, ne m'attirait pas. Hein. Alors, à partir d'un autre côté, j'ai eu au départ une certaine facilité, disons, point de vue intellectuel pour étudier. Et alors, je suis rentré, j'ai fait 6e, 5e à Beaugency, hein, j'en avais la possibilité, puis je suis rentré en 4e, 3e, ça marchait. Alors à partir de là, j'avais aucune idée précise. Hein, même quand j'ai eu passé le bac, j'ai fait philo, donc à l'époque, il y avait philo et maths. Hein, il n'y avait pas d'autres issues, c'était philo ou maths, j'ai fait philo. Je n'étais pas particulièrement doué pour les maths. Hein. Et alors, donc il fallait que je choisisse une branche dans laquelle les maths n'étaient pas indispensables. Et alors on avait d'excellents amis à Beaugency, qui d'ailleurs n'étaient pas de Beaugency. C'était une famille de gens qui étaient originaires de l'Auvergne et qui étaient là, c'était des fonctionnaires, c'était le receveur de l'enregistrement de Beaugency. Et nous étions, c'était nos meilleurs amis à Beaugency, on n'avait pas de famille à Beaugency, on était très amis avec eux, on se voyait très fréquemment, il y avait des enfants de mon âge, enfin on vivait beaucoup ensemble, et je crois que c'est ça qui m'a, enfin hésitant, sachant pas trop vers quoi me tourner, eh bien j'ai vu que, enfin, il me semblait qu'il avait, lui, un certain épanouissement dans son travail, quoi, et alors j'ai opté vers cette branche, alors moyennant quoi, ben, je me suis inscrit en faculté de droit à l'époque, c'était à Paris. Et puis après, ben, j'ai préparé le concours pour entrer dans l'enregistrement. Alors, pardon. Si après, je vous dis, j'ai eu vraiment de la chance dans le déroulement de ma carrière, parce que il y a eu tout un tas de circonstances qui ont fait que je suis revenu d'abord à Orléans, qui ont fait que j'ai pu y rester, et que j'étais à la direction départementale où j'ai eu des tâches intéressantes. Et puis j'ai eu la chance de changer très rarement de directeur. Enfin, en 27 ans d'administration, j'en suis comme mon troisième directeur, ce qui dans l'administration ici est très rare. Hein. Et d'avoir trois directeurs avec des tempéraments très différents, avec lesquels je me suis toujours très bien
entendu. Il va être content.
Ah oui. Avec des, enfin, j'en ai été content pour des raisons différentes. Hein. C'est pas parce qu'ils étaient le même type d'homme. Alors absolument pas. C'est des hommes très différents les uns des autres. Hein. Mais j'ai trouvé à m'adapter très bien avec eux, et à avoir le bon côté de.
Et les gens qui travaillent avec vous, enfin, vos collègues, vous êtes contents enfin.
Oui. J'ai eu aussi, je crois, beaucoup de chance de ce côté-là. J'ai eu un collègue avec lequel on a dû être face à face à longueur de journée pendant, je crois, une douzaine d'années, et avec lequel je suis très ami, parce qu'on n'a jamais eu la moindre discussion. Il se trouve que sur beaucoup de problèmes, d'ailleurs, on pensait à la même chose. Il n'est pas orléanais. Il est originaire du Pas-de-Calais, vous voyez. Et puis alors, quand je suis passé à la direction régionale, il y a 3 ou 4 ans, il s'est trouvé qu'on m'a donné comme collaborateur quelqu'un qui venait d'une autre administration financière, des contributions indirectes, que je connaissais, et qui s'intéressait également aux mêmes problèmes que moi. Hein. Ce qui fait que maintenant, depuis 3 ans, on travaille ensemble et que effectivement, lui aussi, le travail qui change beaucoup par rapport à ce qu'il faisait avant lui plaît, et que vraiment, ça va très bien.
Il y a un mot qui revient souvent dans ce que vous avez dit avant, c'est le mot chance. Est-ce que vous pouvez dire chance par rapport à quoi? Est-ce que vous auriez pu avoir une différence?
Eh bien oui, parce que quand je suis rentré dans l'administration de l'enregistrement, il existait à ce moment-là de multiples recettes. À l'origine, une administration dans laquelle il y avait une recette par chef-lieu de canton. Hein. Et donc, il y avait une très grande dispersion des bureaux. Et il y avait un certain lien entre le grade auquel on en était et le bureau qu'on était amené à gérer. Ce qui veut dire que la plupart des gens faisaient de nombreux postes, étaient amenés à changer très fréquemment et souvent à s'expatrier très loin dans des régions les plus jeunes, toujours les plus désagréables. Enfin. Et effectivement, quand j'étais encore fiancé, une de mes collègues âgées connaissait ma fiancée, ma femme maintenant, et l'a rencontrée, elle lui a dit, vous savez, faut pas croire que vous resterez à Orléans, vous serez obligé de circuler, puis vous verrez, vous irez dans un petit pays, vous serez. Vous voyez, ça ne s'est jamais produit. Je suis resté, donc, si vous voulez, par rapport à certains de mes collègues, enfin, ça m'a convenu. Hein. Peut-être que je me serais adapté à ces changements, je ne sais pas. J'aurais peut-être trouvé autre chose. Je crois, moi, je ne sais pas, moi, je crois que je dirais peut-être la même chose s'il y avait eu... Vous savez, on a des... Enfin, je crois qu'il faut toujours quand même rechercher dans une situation les aspects positifs. Hein? Parce qu'il y en a toujours.
Est-ce que vous êtes content des horaires de travail? Est-ce que vous trouvez
non. Alors, absolument pas. C'est pas une question de durée. Hein? C'est une question de répartition. C'est une question de répartition. Je suis un partisan acharné de la journée contiguë. Je souhaiterais commencer plus tôt, de n'avoir qu'une demi-heure ou trois quarts d'heure de coupure à midi et sortir beaucoup plus tôt pour pouvoir...
Mais au total, travailler le même moment.
Oh, l'horreur, oui. Disons qu'on fait maintenant 42 heures, on descendra à 40 heures, oui, j'aimerais bien. Hein. Mais 40 heures, oui. Ouais. Vous voyez, je fais un travail qui me plaît. Hein. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. C'est ça. Mais effectivement, je vous dis 40 heures, j'aimerais mieux que les 42 heures. C'est pas la question des 2 heures, c'est que, enfin, si vous voulez, il y a un certain nombre de choses que je souhaiterais faire que j'ai pas le temps de faire.
Par exemple,
hein, ben, lire beaucoup plus que je n'ai le temps de faire.
Tout autre type de question. Quand on dit d'une personne que c'est quelqu'un de bien, qu'est-ce que ça veut dire exactement, d'après vous?
Ah, pour moi, c'est quelqu'un qui a une valeur humaine, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas se compromettre. Hein, et... Oui.
Je n'aime pas se compromettre.
Qu'est-ce que
vous en pensez? C'est-à-dire qu'il ne transige pas avec avec ce qu'il pense.
Ah non, se compromettre.
Hein? Quelqu'un qui ne transige pas avec ce qu'il pense, c'est-à-dire qui, même s'il lui en coûte, affirme ce qu'il pense, quoi, et vit conformément à ce qu'il pense. Hein? Je crois que ça, pour moi, c'est quelque chose qui compte énormément. Hein? J'aime pas les faux-semblants. Hein? Et si vous voulez, je me sens très mal à l'aise dans une assemblée où on est obligé de prononcer des paroles qui sont des banalités ou qui sont des formules toutes faites. Hein. Si vous voulez, je suis, quand je suis même extrêmement peiné de quelque chose qui arrive à quelqu'un, je trouve que les mots que je peux dire à cette occasion-là sont tellement hors de proportion avec ce que je ressens et ce que peut ressentir mon interlocuteur que ça me gêne de les dire. Hein. Ça me gêne de les dire. Je ne sais pas faire des condoléances ou des félicitations. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je trouve qu'il n'y a pas de mots quoi, qui peuvent... quand vraiment il y a une joie ou une peine qui sont importants et qui peuvent correspondre à ça, hein, ça me paraît pas possible. Hein. Par contre, il y a des quantités de choses qu'on peut ressentir et qu'on peut faire ressentir, à mon avis, sans les dire, quoi, enfin, par une attitude plus que par des paroles. Hein. Alors pour ça, c'est pour ça que je pense que quelqu'un de bien, c'est quelqu'un... Donc j'arrive à penser que son attitude qu'il a devant moi, c'est vraiment ce qu'il pense, c'est vraiment ce qu'il est. Hein. C'est ça, quoi. Ouais. Par contre, quelqu'un qui se compose une attitude, quelqu'un... Non, ça, alors là, je ne pense pas que ce soit quand même bien. J'aime beaucoup la simplicité.
Je vous pose une question qui se rapporte un petit peu à ce que vous venez de dire, là, je m'excuse, c'était en dehors du questionnaire pour l'instant. Vous êtes à la fois très heureux dans votre travail, dans toutes vos activités, parce qu'elles sont une unité, une synthèse dans votre vie. Et en même temps, vous êtes syndicaliste, c'est-à-dire que vous avez affaire très souvent à des travailleurs qui eux, ne sont pas satisfaits, n'est-ce pas?
Alors, est-ce que cet épanouissement chez vous est un avantage ou un inconvénient pour comprendre?
Ah, moi, je trouve que c'est un, ça ne m'empêche pas de comprendre les difficultés qu'éprouve. Non, parce que quand je vois justement, parce que souvent, les travailleurs, surtout les travailleurs manuels, sont très directs, n'est-ce pas, et font partager beaucoup plus facilement, hein, et leur joie et leur peine, hein, et leurs difficultés. Hein. Et je pense que, pas toujours, parce que dans tous les milieux, il y a des gens qui sont un petit peu... Hein, mais la plupart du temps, je crois qu'ils disent franchement les difficultés qu'ils ont et les joies qu'ils ont. Hein. Et alors, non, j'arrive très bien à comprendre. Et puis, je crois que je comprends assez bien la difficulté, parce que je vous disais tout à l'heure, j'ai vu mes parents avoir vraiment une vie difficile, quoi. Et je comprends très facilement les gens qui ont une vie difficile. Hein. Et je me sens mal à l'aise de ne pas, la partager, ou enfin pas...
Et en même temps, le fait que vous vous êtes satisfait donne un idéal, en quelque sorte, de vie, peut-être, pour ces gens-là.
Enfin, je ne sais pas, mais enfin, et personnellement, je voudrais essayer, quoi, d'amener le plus possible les gens à trouver, justement, cet épanouissement. Voyez-vous, par exemple, le fait qu'un certain nombre de gens soient brimés dans leur travail, dans tout ça, c'est une des raisons peut-être pour lesquelles je participe à une action, même si personnellement, disons, point de vue intérêt personnel, enfin matériel, quoi. J'en éprouverai pas le besoin, quoi, hein, si vous voulez. Hein. Sur le plan, j'estime que, si vous voulez, la rémunération que j'ai, elle est ce qu'elle est, mais enfin, elle me satisfait, moi, personnellement. Hein. Pourquoi, par exemple, sur le plan des salaires, je suis très partisan d'un certain écrasement de la hiérarchie des salaires. Hein. Hein, parce que il y a vraiment un très grand écart dans la hiérarchie des salaires, hein, et des revenus. Hein, si on sort des salaires, des revenus.
Cela vous constatez sans doute pour les impacts.
Ah oui, au point de vue des statistiques. À travers les statistiques fiscales, on retrouve encore plus, oui. Absolument. Certainement.
On peut poser la question.
Oui, c'est une question finale.
C'est une question surtout linguistique. Oui. Mais on n'a pas vraiment de
rapport
sociologique.
Oui, rapport humain, oui.
Savoir si. Quelles sont les personnes que vous tutoyez et quelles sont les personnes que vous voyez,
oui. Vous voyez des... Alors, personnellement, d'ailleurs, j'ai évolué dans une domaine. c'est-à-dire que. Par la formation que j'avais eue au départ, j'avais plutôt tendance à vous voyez. Merci bien. Ah oui. j'avais plutôt tendance à vous voyez. Hein. Et je dois dire qu'il doit y avoir quelque chose qui facilite le tutoiement en France, c'est le service militaire. Or, je n'ai pas fait de service militaire. que tout simplement je suis né le 1er avril 1920 au lieu de naître le 31 mars. Comment, oui. On a appelé ma classe jusqu'au 31 mars, au mois de juin 1939. J'étais né le 1er avril, on ne m'a pas appelé. Puis après j'étais en zone occupée, j'ai pas été appelé tant que le moment était là. Quand la libération est intervenue, j'étais marié, père d'un enfant, j'ai eu droit à un sursis, j'en ai bénéficié. Et puis il y a un décret qui a dispensé les jeunes des classes 20, 21, 22 de service militaire. Alors peut-être que ça fait que je suis passé plus tardivement au tutoiement. Facile, parce que maintenant, Je tutoie assez facilement. En particulier, je tutoie alors sans difficulté, et dès le premier contact, tous les camarades qui travaillent avec lesquels j'ai l'occasion de travailler sur le plan syndical. Mais alors absolument sans difficulté, les hommes, pas les femmes. Hein? Mais ça, absolument sans aucune... sans aucune difficulté.
Pourquoi pas les femmes ?
Je sais pas, je trouve qu'il y a une question de respect pour moi, quoi. Enfin, qui se... Je sais pas, je... Ça me paraît... Hein? Il se peut que j'en arrive à, au bout d'un certain temps, mais pas au premier... Hein?
Il n'y a pas de hiérarchie, en tout cas, entre les hommes ?
Non. Non, enfin sur le plan.
Oui, sur le plan syndical, non. Que ce soit un secrétaire général.
Ah non, ah non, absolument pas. Alors là, absolument pas. Je vois des gens, j'ai senti, et ça m'a. Si vous voulez, j'en ai un peu souffert, quoi. Hein. Oui. Les camarades qui sont ouvriers, surtout un peu plus jeunes, si vous voulez, que moi, qui ont quelques peines à me tutoyer, malgré que je leur ai dit à plusieurs reprises.
Et l'emploi du jour au départ, enfin, avant, ça venait de quoi, vous croyez?
Bon, je crois de la formation que j'avais. En particulier, je vous dis, j'ai fait mes études secondaires dans un établissement religieux, ou, enfin, je sais pas, puis c'était quand même, à l'époque, c'était beaucoup plus répandu, hein, enfin, ça remonte à 1900, des années 30, quoi, hein. C'était le tutoiement, peut-être c'était répandu dans les milieux, disons, de travail, manuel, hein, mais peu dans les autres milieux, hein, même chez les employés. Alors, sur le plan du travail, je vous ai dit, alors ça c'est assez amusant, hein, j'ai été pendant 12 ans face à face avec un collègue qui a 4 ou 5 ans de moins que moi. On avait la même formation, il est du même grade que moi. On appartient à la même organisation syndicale. Hein, on ne s'est jamais tutoyé, on ne se tutoie pas et on est très amis. Hein. C'est pas parce qu'au départ, on ne s'est pas tutoyé. Avant de se connaître bien, on ne s'est pas tutoyé, on continue. Hein. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas... Hein. Je crois que... Enfin, je ne sais pas, j'attache pas au tutoiement, si vous voulez, une marque de plus grande...
Oui.
Amitié, quoi, si vous voulez. Hein. Je peux être très ami avec quelqu'un et lui dire vous. Je tutoie plus difficilement des personnes plus âgées que moi, quand même. Hein. Même, pas sur le plan syndical, hein, mais... Par contre, voyez-vous, mon collègue de travail que j'ai maintenant, je le tutoie. Et il me tutoie, quoi, alors qu'il n'est pas, lui, du même cadre que moi, hein, mais on se tutoie. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que, justement, on s'est connu sur le plan syndical, alors qu'il appartient à la CGT, à la CFDT, avant de travailler ensemble. Hein. Je crois que effectivement, si vous voulez, les relations syndicales favorisent énormément le tutoiement. Hein. Si vous voulez, c'est, à mon avis, ça marque un certain accord sur un certain nombre de choses.
Très
bien.
Très
intéressant. Hein. À mon avis, enfin...
Vous employez le terme de camarade quand vous adressez à votre congrès ou seulement...
J'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup. C'est un peu démagogique. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais enfin, si vous voulez, je trouve que c'est plus par ce qu'on peut faire que par ce qu'on peut dire. Hein. que on marque ce que l'on est, ce que l'on pense. Hein?
Mais est-ce qu'il y a des gens que vous tutoyez et qui vous voient, ou l'inverse?
Peut-être quelques jeunes, oui, que je tutoie et qui me voient. Même des camarades sur le plan syndical. Hein. Je pense à un camarade que je connais bien depuis 5 ans à peu près, hein, avec qui on a beaucoup travaillé, et qui, que je tutoie. Mais alors il a plus de 20 ans de différence avec moi. Enfin, il a 23, 24 ans, 25 ans peut-être. Hein. J'ai 48 ans. Et c'est pas un manuel cependant, hein. il est dessinateur, hein. Et il me dit toujours, bon, j'arrive pas à, je crois que c'est une question d'âge pour lui, hein, qui joue. Hein. C'est une question d'âge qui joue. Vous savez, je crois que c'est surtout ça qui fait que certaines personnes que je tutoie me vous voient.
Hein. Est-ce que dans votre expérience, les femmes auraient moins tendance à se tutoyer?
Mais, moi, je crois qu'il y a une évolution quand même en France. Enfin, à mon avis, je vois les jeunes se tutoient beaucoup plus facilement qu'au moment où j'avais leur âge.
Ouais. Hein? Toutes sortes de choses.
Même entre filles et entre, entre garçons, oui, tutoyer. Mais entre filles. Hein? Et alors, ça, je crois qu'il y a quand même une évolution dans ce domaine-là, on se tutoie beaucoup plus facilement. Mm-hmm. Hein.
Vous avez l'expérience du passage du vous au tu, qui reste encore en votre mémoire, ou bien est-ce que vous pouvez trouver des explications au passage du vous au tu?
J'en ai une expérience récente dans mes stagiaires. Hein. Et il y a deux des stagiaires que j'ai connus quand ils sont entrés au centre, hein, et à qui je disais vous et qui me disaient vous, tous mes stagiaires, je leur dis vous, bien qu'ils soient plus jeunes que moi. Moi. Hein, bon. Or, il se trouve que parmi ces stagiaires, ces deux-là ont été reçus au concours, et reçus à leur première année de licence, et sont restés ici pour préparer leur deuxième année de licence, et commencer leur formation professionnelle. Et puis, ils ont pris une part assez active sur le plan étudiant, aux événements du mois de mai, et je les ai tutoyés à ce moment-là.
Ah bon? Hein? Et c'est devenu presque
très naturellement. Oui, parce qu'on a senti encore une fois qu'on était vraiment, et qu'on est une espèce de, non seulement qu'on pense qu'on qu'on mène vraiment une lutte ensemble, enfin je crois. Oui. C'est une espèce de solidarité qui est marquée par le tutoiement aussi. Hein.
Oui. Et vous avez ressenti périodes de d'hésitation, de flottement, où on passe du vous au tourbillon.
Oui, ça s'est produit, je pense, effectivement, à quelqu'un qui est à peu près de mon âge, c'est plus jeune, et alors, que j'ai tutoyé, il est syndicaliste, et je l'ai tutoyé parce qu'on se retrouvait sur le plan syndical, mais je me suis même retrouvé avec lui à des réunions politiques, enfin on s'est tutoyé, et lui, plusieurs fois, m'a une deux fois tutoyé, puis il m'a dit voir, je suis revenu, parce qu'il était à peu près de mon âge, je pensais que je pouvais peut-être le choquer, enfin.
Oui. Il y avait des grandes différences entre vous en dehors de...
Non, il est au point de vue situation matérielle, disons, nordique, peut-être même supérieure, je ne sais pas.
Ça a une importance, la situation des gens,
je crois. Oui, je crois. Hein. Je crois que par la position que les gens occupent, on les tutoie moins facilement. Hein. Oui.
Oui. L'usage de l'emploi du prénom s'est répandu
Ça se développe un peu, hein. Ça se développe un peu. Mais moi que le tutoiement, hein, voyez-vous, et je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui ont difficulté à s'appeler par leur prénom.
Alors vous tutoyez quelqu'un en l'appelant par son nom de famille.
Oui. Ça m'est arrivé, oui.
C'est très intéressant. Oui. Oui. Parce qu'en anglais, au contraire, il y a lecture en anglais. Oui, oui. Mais le prénom marque beaucoup plus fréquemment employé, oui. Sur le plan notamment des rapports entre collègues, le prénom.
Ah oui.
Pas partout, mais notamment.
Oui. Bon, entre collègues, voyez-vous, je connais beaucoup de collègues qui se tutoient, ou avec lesquels on se tutoie, et où on passe plus difficilement à s'appeler par le prénom. Hein?
Passionnant.
Et avec votre directeur, alors, comment ça se passe?
Eh bien, dans l'enregistrement, il y avait de vieilles traditions. Hein, et quand on rencontrait son directeur, on lui présentait ses respects. Hein, et pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, malgré tout le respect que j'avais pour mon directeur, je trouvais ça une formule creuse. Et voilà, ce qui fait que je l'emploie très rarement. Hein, je l'ai employé très rarement avec les trois directeurs successifs que j'ai eus. Hein. Je vois mon directeur là, celui que j'ai actuellement, qui est directeur régional, qui donc, si vous voulez, est un des hauts fonctionnaires, quoi, ça équivaut à être trésorier payeur général, préfet, etc. Il est rentré de vacances là, la première fois où je l'ai vu en rentrant de vacances, je lui ai présenté le respect parce que ça correspondait à quelque chose, c'était une reprise de contact, on s'était pas vu depuis un certain temps. Sans quoi, quand je le vois pour la première fois, je dis bonjour, monsieur le directeur.
Mais est-ce que lui s'attendait de vous, par exemple, à ce que vous présentiez le respect
Non, je ne crois pas. Non. Je ne crois pas, non, mais parce que là, je sais pas, on avait eu un certain temps sans se voir, hein, et j'estimais que. Je ressentais que je voulais lui marquer que, effectivement, il est mon patron, quoi, hein, et que. J'estime qu'il y a une hiérarchie qui est nécessaire, quoi, et que. Je voulais le marquer, quoi, hein. Mais sans quoi. Je le reverrai demain matin. Je dis, bonjour monsieur le directeur, comment allez-vous? J'ai tendance personnellement à. Toujours, non, mais quand j'aborde quelqu'un, toujours dire comment ça va. Ça. Je pense.
Vous l'avez fait ce soir. Oui. Je crois que nous n'allons pas vous retenir davantage.
Une soirée extraordinaire. On pourrait faire 100 thèses de doctorat sur le tueur de vous et il n'y a personne qui s'y est passé. C'est extraordinaire.
Ah oui.
Je comprends. C'est un sujet inépuisable.
En français.
En français.
Oui.
C'est peut-être parce que c'est trop compliqué que personne ne sait.
C'est-à-dire qu'évidemment, il faudrait avoir de multiples.
Recoupement, structurer tout cela, de façon. Mais c'est, moi, je crois que c'est pas ça.
Évidemment, en anglais, c'est simplifié par le.
Oui, mais il y a d'autres. Ça, oui. Ça, mais, ça se retrouve. Il y a d'autres signes, n'est-ce pas, la fois gestuelle.
Je peux vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement des langues en France?
Eh bien, il y a un très très grand effort fait. Peut-être en France qu'on a fait le plus grand effort depuis la guerre avec les nouvelles méthodes du crédit, je ne sais pas si vous connaissez les méthodes, mais alors on s'est intéressé surtout à l'enseignement du français à l'étranger, alors qu'on a négligé l'enseignement des langues vivantes dans les écoles de France.
Oui, oui non, mais la politique du bordel. Non mais ce qui me gêne énormément, c'est de dire que j'ai fait de l'anglais pendant 7 ans, et que je serai incapable de tenir une conversation avec vous en anglais.
Ah oui, mais moi je suis, en tout cas, je suis né français, j'ai appris l'anglais d'abord en France. Ça fait 20 ans que je suis en Angleterre. Mais je crois que, à cause surtout du système rigide de l'enseignement français, qui fait que tant que la tête, n'est-ce pas, le haut n'aura pas changé, n'aura pas une directive générale pour l'enseignement français, ça ne changera pas.
Auriez-vous, par exemple, mon garçon était en sixième l'année dernière, il faisait de l'anglais. Hein. Et alors, c'est quelque chose qui m'a énormément surpris. Il y avait des phrases à apprendre, simplement des phrases, hein, et c'est tout. Des phrases à apprendre, et jamais on ne lui donnait une leçon de grammaire à apprendre. Hein. Alors, moi je sais pas, j'ai senti qu'il avait des lacunes énormes dans ce domaine-là, et j'en ai parlé avec un professeur qui m'a dit, mais il est vraisemblable qu'on n'a pas le droit, les règlements interdisent de donner une leçon de grammaire à apprendre en sixième. Alors, c'est là que j'ai appris que l'horaire d'une heure de classe de langue était rigoureusement... Hein, on devait faire 7 minutes de ceci. Enfin, je pense que... J'espère que la plupart des professeurs se dégagent de ce carcan, mais enfin...
Sauf le jour où l'inspecteur...
Oui.
Remarquez, il est vrai, je crois que c'est vrai, dans l'exemple, il ne faut pas faire de grammaire, en tout cas dans les débuts, quand on fait surtout de la langue parlée, mais... ne pas faire de grammaire du tout, c'est appliquer un principe rigide, n'est-ce pas, sans aucune intelligence, n'est-ce pas, parce qu'il y a des moments où il faut faire la grammaire, justement.
Et vous, par exemple, quelque chose, moi, qui me paraît, enfin, quand on atteint le niveau des études supérieures, quoi, enfin, j'admettrais bien qu'il faille travailler sur des textes classiques, mais enfin, voir que, par exemple, ma fille qui fait une licence d'espagnol, en thème, on lui donne presque toujours des choses comme une fable de La Fontaine à traduire en espagnol.
Ah oui. Mais c'est pareil en Angleterre, dans les universités traditionnelles.
Et elle a eu, avec la main, un texte de Diderot, je crois.
C'est ça.
Et le texte, la version, c'était un texte espagnol du 15e ou du 16e siècle.
C'est ça. Quoi. C'est ça. Enfin, nous commençons à supprimer la traduction dans les universités.
Oui.
Et c'est très lent. Avant que l'étudiant ait pu quand même vraiment posséder sa langue contemporaine.
C'est ça. Et voilà, alors on est allé donc cette année en Espagne, on y est allé plusieurs fois. Combien de fois on allait faire le marché, quoi, puisqu'on était en location, combien de fois elle a eu. Je disais, bon, bah, tu demandes ça. Je savais pas comment ça se disait.
Remarquez, pas savoir le nom d'un...
Oui, d'accord, non, mais enfin, c'est pour dire, quoi, que c'est un enseignement qui est passé pour la vie, quoi, hein, qui est fait pour l'enseignement.
C'est la philologie et la littérature classique, quoi, on n'avait pas sorti.
Alors, ça m'a amusé, parce qu'on est une cité romaine, d'abord, et c'est la seule où on s'est trouvé, c'est le curé du patelin qui nous a fait visiter. Et alors... il parlait très lentement exprès, et alors j'ai fait du latin, et alors là j'ai saisi à peu près tout ce qu'il disait, ce qu'il pouvait dire. Voilà.
J'espère que vous viendrez à Londres, hein, c'est bien.
Pas encore franchi.
Non.
Jamais.